Chapitre 9. Depuis 24 heures, Méchiné était si changé que ses sœurs ne le reconnaissaient plus. Aussitôt après le départ de Mademoiselle Denise, elles étaient allées le trouver, espérant qu'il leur apprendrait enfin ce que signifiait cette mystérieuse entrevue. Mais, dès les premiers mots, « Cela ne vous regarde pas » s'était-il écrié avec un accent qui fit frémir les deux couturières. « Cela ne regarde personne !» Et il était resté seul, tout étourdi de l'aventure, et rêvant au moyen de tenir sa promesse sans se compromettre. Ce n'était pas aisé. Le moment décisif arrivé, il reconnut que jamais il ne réussirait à faire passer à Jacques de Boiscourant le billet qui brûlait sa poche sans être aperçu de l'œil de lynx de M. Galpin d'Aveline. Force lui fut donc, après de longues hésitations, de recourir à la complicité de l'homme qui servait Jacques, de frumant ce cheminot enfin. C'était d'ailleurs un assez bon diable que ce pauvre diable, dont le vice capital était une incurable paresse et qui n'avait sur la conscience que de légers délits de vagabondage. Il aimait Méchiné, lequel, pendant ses séjours antérieurs à la prison de Sauveterre, lui avait donné quelquefois du tabac ou quelques sous pour s'acheter du vin. Il ne fit donc aucune objection à la proposition que lui fit le greffier de remettre un billet à M. de Boiscourant et de rapporter une réponse. Et il s'acquitta fidèlement et honnêtement de la commission. Mais de tout ce qui s'était bien passé cette fois, il ne s'ensuivait pas que Méchiné fût plus tranquille. Outre qu'il était assailli de remords en songeant à ses devoirs trahis, il frémissait de se sentir à la merci d'un complice. Que fallait-il pour qu'il fût découvert ? Une indiscrétion, une maladresse, un hasard malheureux. Qu'adviendrait-il alors ? Destitué, il perdrait successivement toutes ses places. La confiance et la considération se retireraient de lui. Adieu les rêves ambitieux, les illusions de fortune, l'espoir d'arriver à une belle position par un mariage avantageux. Et cependant, contradiction bizarre, Méchiné ne regrettait pas ce qu'il avait fait et il se sentait prêt à recommencer. Telles étaient ses dispositions quand la vieille bonne de M. de Chandoré lui apporta la lettre de sa maîtresse. « Quoi encore ? » s'écria-t-il. Et quand il eut parcouru les quelques lignes, « Dites à Mademoiselle de Chandoré que je suis à ses ordres, » répondit-il, persuadé que quelque événement fâcheux était survenu. Moins d'un quart d'heure après, en effet, il sortit, et avec toutes sortes de précautions pour dépister les curieux, il gagna la ruelle de la Charité. La petite porte du jardin était entrebâillée, il n'eut qu'à la pousser pour entrer. Quoiqu'il n'y eût pas de lune, la nuit était fort claire. À quelques pas, sous les arbres, il reconnut Mademoiselle Denise et s'avança. « Excusez-moi, monsieur, commença-t-elle, d'avoir osé vous envoyer chercher. » Toutes les angoisses de Méchiné se dissipaient. Il ne songeait plus qu'à l'étrangeté de la situation. Sa vanité se délectait de se voir le confident de cette jeune fille, la plus noble, la plus jolie et la plus riche héritière du pays. « Vous avez bien fait de me demander si je puis vous être utile, mademoiselle, » dit-il. En peu de mots, elle lui mit au fait, et quand elle lui demanda son avis, « Je pense comme maître Folga, » répondit-il, « que le chagrin et l'isolement commencent à agir d'une façon désastreuse sur le moral de M. de Boiscourant. » « Oui, c'est à devenir fou !» murmura la jeune fille. « Je crois, avec maître Magloire, » poursuivit le greffier, « que M. de Boiscourant, en s'obstinant à se taire, empire sa situation. J'en ai la preuve. M. Galpin d'Aveline, si anxieux les deux premiers jours, a recouvré toute son assurance. Le procureur général lui a écrit pour le féliciter de son énergie. Et alors ?» Alors, mademoiselle, il faudrait déterminer M. de Boiscourant à parler. Je sens bien que sa résolution est très fermement arrêtée, mais si vous lui écriviez, puisque vous pouvez lui écrire... Une lettre serait inutile. Cependant... Inutile, vous dis-je. Seulement, je sais un moyen. Employez-le bien vite, alors, mademoiselle, interrompit le greffier. Ne perdez pas une minute, il n'est que temps. Si claire que fut la nuit, Méchiné ne pouvait voir la pâleur de la jeune fille. « Eh bien, reprit-elle, il faut que j'arrive jusqu'à M. de Boiscoran, que je le voie, que je lui parle. » Elle supposait que le greffier allait bondir, se récrier. « Point. »« En effet, dit-il du ton le plus tranquille, mais comment ?»« Blangin, le geôlier et sa femme ne tiennent à leur place que parce qu'elle les fait vivre. Pourquoi ne leur offrirais-je pas, en échange d'une entrevue avec M. de Boiscoran, de quoi s'établir à la campagne ?»
« Pourquoi non ?» fit le greffier.
Et plus bas, répondant aux objections de son expérience, « La prison de Sauveterre, poursuivit-il, ne ressemble en rien aux maisons d'arrêt des grandes villes. Les prisonniers y sont rares, la surveillance y est nulle. Les portes fermées, Blangin y est le maître. « J'irai le trouver demain !» déclara Mlle Denise. Il est de ces pentes sur lesquelles on ne saurait se retenir. En cédant une première fois aux suggestions de Mlle Denise, Méchinet, à son insu, s'était engagé pour l'avenir.
« Non, n'y allez pas, mademoiselle, dit-il. Vous ne sauriez ni démontrer à Blangin qu'il ne court aucun danger, ni exciter suffisamment ses convoitises. C'est moi qui parlerai. »«
Oh, monsieur !» s'écria Mlle Denise. « Monsieur, comment jamais ?»«
Combien puis-je lui offrir ?» interrompit le greffier.
« Tout ce que vous jugerez convenable, tout !»«
Alors, mademoiselle, demain, ici, à la même heure qu'aujourd'hui, je vous apporterai la réponse. »
Et il s'éloigna, laissant Mlle Denise si enflammée d'espoir que tout le reste de la soirée et toute la journée du lendemain, tante Lavarande et Madame de Boiscoran, à qui elle n'avait rien confié, ne cessèrent de se demander « Qu'a donc la petite ?» Elle songeait que, si la réponse était favorable, avant 24 heures elle verrait Jacques, et elle se disait « Pourvu que Méchinet soit exact !» Il le fut. À 10 heures précises, comme la veille, il poussait la petite porte, et tout d'abord « J'ai réussi » dit-il. Si violente fut l'émotion de Mlle Denise qu'elle dut s'appuyer à un arbre. « Blangin consent, » poursuivit le greffier. « Je lui ai promis 16 000 francs. C'est peut-être beaucoup. »«
C'est bien trop peu. » »«
Il exige qu'il lui soit remis en or. » »«
Il les aura. » »«
Enfin, il met à l'entrevue des conditions qui vous paraîtront peut-être bien dures, mademoiselle. » Déjà la jeune fille s'était remise.
« Dites, monsieur. »
Tout en prenant ses précautions pour le cas où il serait découvert, Blangin tient à ne pas l'être. Voici donc comment il a réglé les choses. Demain soir, à 6 heures, vous passerez devant la prison. La porte sera ouverte et sur la porte se tiendra la femme de Blangin que vous connaissez bien puisqu'elle a été à votre service. Si elle ne vous salue pas, continuez votre chemin, il serait survenu quelque empêchement. Si elle vous salue, allez à elle toute seule et elle vous conduira dans une petite pièce qui dépend de son logement. Vous y resterez jusqu'à l'heure, assez avancée nécessairement, où Blangin croira pouvoir vous conduire sans danger à la cellule de M. de Boiscoran. L'entrevue terminée, vous reviendrez à votre petite chambre où un lit sera préparé et vous y passerez le reste de la nuit. Car voilà la condition terrible, vous ne pourrez sortir de la prison que 2 jours. C'était terrible en effet. Pourtant, après un moment de réflexion,
« N'importe, fit Mlle Denise. J'accepte. Dites à Blanchin, Monsieur Méchinet, que tout est convenu. »
Que Mlle Denise accepta toutes les conditions du geôlier Blangin, rien de mieux, rien du moins de plus naturel. Obtenir l'assentiment de Monsieur de Chandoré devait être plus difficile. La pauvre jeune fille le comprit si bien que, pour la première fois, elle se sentit émue en présence de son grand-père, qu'elle hésita, qu'elle prépara ses phrases et qu'elle chercha ses mots. Mais c'est en vain qu'avec un art dont la veille elle ne se fût pas crue capable, elle ménagea l'étrangeté de sa requête. Dès qu'elle se fut expliquée, « Jamais !» s'écria M. de Chandoré. « Jamais, jamais !» Jamais, c'est positif, le vieux gentilhomme ne s'était exprimé avec cette autorité décisive. Jamais ses sourcils ne s'étaient ainsi froncés. Jamais, à une demande de sa petite fille, il n'avait répondu non sans que son œil répondît oui.
Impossible, prononça-t-il encore, et d'un ton qui ne semblait pas admettre de réplique. Certes, en ces douloureuses circonstances, il ne s'était pas marchandé, et il avait bien montré à Mademoiselle Denise tout ce qu'elle pouvait attendre de lui. Du doigt et de l'œil, elle lui avait imposé ses volontés. Selon qu'elle lui avait soufflé, il avait dit oui, il avait dit non, il avait dit peut-être. Que n'eût-il pas dit encore ? Sans lui apprendre ce qu'elle voulait en faire, Mademoiselle Denise lui avait demandé 120 000 francs et il les avait donnés, bien que ce soit une grosse somme en tout pays, énorme à Sauveterre, immense pour un vieillard qu'il a économisé louis à louis. Il était prêt à en donner autant, à en donner le double, sans plus d'explication. Mais que Mademoiselle Denise quitta la maison paternelle un soir à 6 heures pour ne rentrer que le lendemain, c'est ce que je ne puis souffrir, répétait-il. Mais que Mademoiselle Denise alla passer la nuit dans la prison de Sauveterre pour y avoir une entrevue avec son fiancé, prisonnier et accusé de meurtre et d'incendie, la nuit entière, seule, à l'absolue discrétion d'un geôlier, d'un homme dur, avide et grossier. C'est ce que je ne puis souffrir, répétait-il. C'est ce que je ne permettrai pas, s'écria encore le vieux gentilhomme. Calme, Mademoiselle Denise avait laissé passer l'orage. Et lorsque son grand-père s'arrêta, « Et s'il le faut, cependant » dit-elle. Monsieur de Chandoré haussa les épaules. « S'il le faut, » insista-t-elle en haussant le ton, « pour déterminer Jacques à renoncer à un système qui le perd, pour le déterminer à parler avant la fin de l'instruction ?»« Ce n'est pas ton rôle, mon enfant, » dit Monsieur de Chandoré. « Oh !» C'est le rôle de sa mère, de la marquise de Boiscoran. Ce que Blangin consent à risquer pour toi, il risquera pour elle au même prix. Que Madame de Boiscoran aille passer la nuit à la prison, je l'approuverai. Qu'elle voie son fils, elle fera son devoir. Ce n'est pas elle qui changera les résolutions de Jacques. Et tu te crois sur lui plus d'influence que sa mère? Ce n'est pas la même chose, papa. N'importe. Ce « n'importe » de M. de Chandoré n'était pas moins net que son « impossible », mais il discutait. Et discuter, c'est s'exposer à être entamé par les objections de l'adversaire. « N'insiste pas, chère fille, » reprit-il, « mon parti est irrévocablement arrêté, et je te jure... »«
Ne jure pas, bon papa !» interrompit la jeune fille.
Et si résolue était son attitude et si ferme son accent que le vieux gentilhomme en demeura un instant abasourdi.
« Je ne veux pas, cependant, » reprit-il. « Tu consentiras, bon papa, tu ne mettras pas ta petite fille qui t'aime tant dans la douloureuse nécessité de te désobéir pour la première fois de sa vie. Parce que pour la première fois, en effet, je ne fais pas la volonté de ma petite fille. »
« Bon papa, laisse-moi te dire. » « Écoute-moi plutôt, pauvre cher enfant, et laisse-moi te montrer à quel danger, à quel malheur tu t'exposerais. Aller passer la nuit à cette prison, ce serait risquer, entends-tu bien, ton honneur de jeune fille, cette fleur de renommée qu'une médisance flétrit, le bonheur et le repos de toute la vie.
L'honneur et la vie de Jacques sont en danger. »
« Pauvre imprudente, sais-tu seulement s'il ne serait pas le premier à te reprocher cruellement ta démarche ?»«
Lui ?»
Les hommes sont ainsi faits qu'ils s'irritent des plus admirables dévouements.
« Soit, je souffrirai moins des injustes reproches de Jacques que de ne pas faire mon devoir. »
Le désespoir gagnait M. de Chandoré.
« Et si je te priais, Denise, reprit-il, au lieu de te commander ?» Si ton vieux grand-père te conjurait à genoux de renoncer à ce funeste projet.
Tu me ferais une peine affreuse, bon papa, et inutile, car je résisterais à tes prières comme je résiste à tes ordres.
Implacable, s'écria le vieillard, elle est implacable.
Et tout à coup, changeant de ton,
pourtant je suis le maître, s'écria-t-il.
Bon papa, de grâce! Et puisque rien ne saurait te toucher, c'est à Méchinet que je m'adresserai, c'est à Blangin que je signifierai ma volonté. »
Plus blanche qu'un marbre, mais l'œil étincelant, Mademoiselle Denise recula d'un pas.
«
Si tu faisais cela, grand-père, interrompit-elle, si tu brisais ma dernière espérance.
Eh bien,
demain, je te le jure par la mémoire de ma mère, je serai dans un couvent et tu ne me reverrais de ma vie. Non, pas même au moment de ma mort, qui ne tarderait pas.
D'un mouvement désespéré, M. de Champdoré leva les bras vers le ciel et, d'une voix rauque,
« Oh, mon Dieu ! S'écria-t-il, voilà donc nos enfants et voilà ce qui nous attend, nous, vieillards. Notre existence entière s'est passée à veiller sur eux, nous avons été à genoux devant toutes leurs fantaisies, ils ont été notre souci le plus cher et notre meilleure espérance. De même que nous leur avons donné notre vie jour à jour, nous voudrions leur donner notre sang goutte à goutte, ils sont tout pour nous et nous nous croyons aimés. Pauvres fous ! Un jour, un jeune homme passe, insoucieux, rieur, l'œil brillant et quelques mots d'amour aux lèvres, et c'est fini, notre enfant n'est plus à nous, notre enfant ne nous connaît plus. Meurs dans ton coin, vieillard !»
Et, succombant à son émotion, de même que le chêne touché par la hache, le vieux gentilhomme chancela et s'affaissa lourdement dans son fauteuil.
« Ah, c'est affreux !» murmura Mademoiselle Denise. « C'est affreux ce que tu dis là, grand-père. Toi, douter de moi !»
Elle s'était agenouillée, elle pleurait, et ses larmes roulaient sur les mains du vieux gentilhomme. À cette sensation, il se dressa, et, tentant un dernier effort,
« Malheureuse, reprit-il, et si Jacques était coupable? Et si, lorsque tu paraîtras, il te faisait l'aveu de son crime ?»
Mademoiselle Denise secoua la tête.
« C'est impossible, dit-elle, et cependant, si cela était, je devrais être punie comme lui, car je sens que, s'il l'eût voulu, j'aurais été sa complice. »
« Elle est folle, soupira M. Champdoré en retombant sur son fauteuil. « Elle est folle. » Mais il était vaincu, et le lendemain, à 5 heures du soir, le cœur déchiré d'une horrible douleur, il descendait la rue de la Rampe, donnant le bras à sa petite fille. Mademoiselle Denise avait choisi la plus simple et la plus sombre de ses toilettes, et le petit sac qu'elle portait au bras renfermait non pas 16, mais 20 000 francs en or. Comme de raison, il avait fallu mettre dans la confidence Madame de Boiscoran, tante Lavarande et maître Folga, et à la profonde stupeur de Monsieur de Champdoré, personne n'avait risqué une objection. Jusqu'à la rue de la prison, le grand-père et sa petite fille n'échangèrent pas une parole. Mais là,
« Je vois Madame Blangin sur sa porte, bon papa !» dit Mademoiselle Denise. « Faisons bien attention !»
Ils approchaient. Madame Blangin salua.
« Allô, le moment est venu !» dit la jeune fille. « À demain, bon papa, et surtout rentre bien vite et ne t'inquiète pas !»
Et rejoignant la femme du geôlier, elle disparut dans l'intérieur de la prison.